Un nouvel incendie ce matin à l'école catholique de Saint-Louis. Après une pièce de stockage hier, ce sont deux salles administratives qui ont été détruites par les flammes. L'actualité judiciaire avec le procès d'Eli Païta ce mardi. Il est jugé en appel après avoir été condamné à 30 mois de prison en avril dernier. Autre procès, celui de deux jeunes de 18 et 19 ans après le vol en réunion d'un commerce commis vendredi dernier. Ils ont écopé de 27 mois de prison. L'IEOM adapte sa politique monétaire dans la zone franc-pacifique. Plusieurs décisions ont été prises pour répondre au contexte économique actuel dans les territoires de la région. Les concours bovins de l'OSEF et les enchères de retour sur le territoire ce mardi. La meilleure carcasse de gros bovins vient de Bouraille. Et puis le sport, fin d'aventure pour les Calédoniens au championnat d'Océanie de tennis de table en Nouvelle-Zélande. Ils ont tous été éliminés en 8e de finale. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région pacifique. Et à la une de l'actualité ce soir, l'école catholique de Saint-Louis, de nouveau ciblée. Après l'incendie qui avait endommagé une pièce de stockage, ce sont les salles administratives qui ont été détruites par un nouvel incendie ce matin. Charlotte Coulson.
Les pompiers étaient rapidement intervenus hier pour circonscrire l'incendie. Ce matin, il a été beaucoup plus conséquent. Le directeur de la DEC, accompagné des gendarmes, a été témoin de cet incendie. Il était venu sur place pour faire un état des lieux des dégâts de la veille. Le récit de Manuel Van Erscott, le directeur de la DEC.
Ce matin, je suis allé à l'école de Saint-Louis uniquement pour prendre connaissance, faire des photos des exactions de la veille. J'ai dû rentrer accroupi dans une salle administrative pour pouvoir aller voir ce qui se passait, tellement il y avait de nuages noirs toxiques. Seulement à mon arrivée, il y a un individu qui s'est enfui au lointain et j'ai pu constater un début d'incendie dans le bureau de l'administration. Comment dire, avec des flammes qui faisaient déjà un mètre. Voilà, donc je suis juste rentré pour essayer d'éteindre l'incendie, mais j'ai pas pu y rester. Des gendarmes m'accompagnaient depuis le verrou nord, donc on s'est plutôt retiré, on a appelé les pompiers. Sûrement qu'un accélérant avait été utilisé parce que le feu s'est propagé dans la pièce vraiment très très rapidement.
Emmanuel Van Erscott avait tenu à maintenir cette structure de proximité dans la tribu de Saint-Louis à la rentrée. C'est donc la déception qui domine.
Je suis un peu, on va dire, chagriné, c'est un peu plus fort que ça, mais voilà une école qu'on me conseillait de fermer à la rentrée scolaire parce que dans tel lieu géographique, ça pouvait poser problème. J'ai réouvert, moi personnellement, j'ai insisté pour que cette école réouvre. Cette année, j'avais pris la tâche des coutumiers, de la directrice, des parents d'élèves qui m'avaient sollicité. Quasiment aucun incident s'est produit. Et puis là, des incendies qui ravagent notre lieu de travail. Voilà, c'est désolant, je ne sais pas quel mot utiliser. Je ne vais pas dire que c'est un constat d'échec. Pour l'Église, nous sommes dans une année d'espérance jubilaire, donc on va y croire. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ça atteint surtout les petits. Du matériel a été brûlé, voilà, du matériel qu'ils utilisaient eux, qui était stocké dans les bureaux administratifs. C'est désolant, surtout pour les petits.
Emmanuel Van Erscott a déposé des plaintes pour les deux incendies. Les enfants de Saint-Louis seront scolarisés dans la DEC, mais une étude de l'état de la charpente sera nécessaire avant d'accueillir à nouveau les élèves. Et dans un communiqué, la ville du Mont-d'Or réagit à ce nouvel acte de délinquance. La maire Elisabeth Rivière le condamne fermement et affiche son soutien à la direction diocésaine de l'enseignement catholique.
C'est de la stupéfaction. Pour nous, c'est décevant parce que ça touche nos jeunes enfants de la commune et on peut pas entendre cela, quoi. Après échange avec la DEC, il y a un bâtiment qui est encore disponible. Donc, la DEC va faire le nécessaire pour que ces classes puissent être réouvertes. Cependant, il lui appartient de prendre cette décision. Nous l'accompagnerons pour que les élèves puissent retourner à l'école dans les meilleures conditions. C'est important, c'est une école de proximité et les enfants qui sont scolarisés dans cette école n'ont pas forcément de moyens de locomotion pour se déplacer dans d'autres établissements scolaires.
La maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, qui indique qu'elle participera au comité de suivi organisé par le Haut-Commissariat dans les prochains jours pour faire le point sur la situation en matière d'ordre public dans la tribu.
Autre incendie qui s'est déclaré ce matin vers 10h dans le local des archives de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie. Trois camions de pompiers étaient sur place accompagnés de fourgons de police qui ont bloqué la rue de la République. Le major Prats, chef de groupe des sapeurs-pompiers de Nouméa, revient sur l'intervention.
On a eu un départ de feu dans les faux plafonds suite à un problème électrique. Donc l'ensemble du bâtiment a été évacué par le personnel responsable. Et nous, on est intervenus pour constater des dégâts et procéder à nos vérifications. Au moment du sinistre, 24 occupants. L'ensemble du personnel a été évacué sans panique et on recense aucun blessé. Le feu a été maîtrisé par des bons réflexes du personnel au moyen d'un extincteur. Nous avons juste constaté qu'effectivement, au moyen de la caméra thermique, l'ensemble du sinistre était bien éteint et qu'au niveau de la détection du monoxyde de carbone, les gens pouvaient réintégrer leur poste de travail.
Une enquête est désormais en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Du côté de Tours, après les violences dans ces derniers jours entre plusieurs tribus, le conseil du district coutumier s'est réuni ce matin pour examiner la situation. Il a décidé d'expulser une quarantaine de personnes impliquées dans les tensions. Il s'agit de 22 hommes accompagnés pour certains de leurs femmes et de leurs enfants. L'expulsion a eu lieu dans la foulée sous la protection de la gendarmerie. L'actualité judiciaire, Eli Païta jugé en appel aujourd'hui. L'homme de 33 ans a été condamné le 15 avril dernier pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 3 juin 2024 au niveau de la tribu de Saint-Laurent. Il avait, avec son pick-up, percuté par l'arrière une voiture de location. À son bord, 3 gendarmes en civil, Charlotte.
Le prévenu est resté discret aujourd'hui en salle d'audience. Eli Païta, 33 ans, père de 2 enfants et actuellement sans activité, est placé sous contrôle judiciaire depuis son jugement le 15 avril dernier. Il avait, ce jour-là, été condamné à 30 mois de prison, dont 18 mois ferme. Une condamnation pour des faits, vous l'avez dit, commis en juin de l'année dernière. Dans un contexte insurrectionnel, Eli Païta et son cousin Lionel Païta, avec un troisième individu, se lance à la poursuite d'un véhicule qui traverse le col de la pirogue. Selon lui, car il roulait trop vite, le pick-up a alors percuté l'arrière de la voiture, transportant les gendarmes. S'ensuit un échange de tirs au cours duquel Eli et Lionel Païta sont touchés. Le premier est blessé au bras, tandis que le second succombe à ses blessures quelques jours plus tard. La culpabilité d'Eli Païta dans ces faits de violence a été établie lors de son jugement en première instance. Elle n'est donc pas remise en cause aujourd'hui, comme le souligne l'avocate de la partie civile, Maître Nathalie Lepape.
Les victimes et parties civiles n'ont pas accès à la parole dans ce type de procès puisque la partie civile a été entendue en sa qualité de victime, elle a été reconnue comme victime et donc ça n'a porté que sur la peine de M. Païta et il s'agit de savoir si la Cour va le condamner à une peine identique à celle de première instance, plus importante ou pas. Il n'y a pas de questionnement sur la culpabilité du condamné puisque l'appel du parquet portait uniquement sur la peine en elle-même qui n'était pas conforme à la loi.
Et le parquet a donc requis une peine de 30 mois de prison, dont 12 mois ferme au lieu des 18 décidés en première instance. Le jugement sera rendu le 22 juillet.
Autre procès attendu aujourd'hui après le vol en réunion d'un commerce commis vendredi dernier.
À 3 jeunes s'étaient introduits dans le magasin Rôti à Normandie, armés d'une barre en fer et de pierres de la taille d'un poing. Après avoir menacé les clients et le personnel, ils ont dérobé la caisse. Le butin s'élève à 239 000 francs et 73 cartes téléphoniques. 2 jeunes ont pu être interpellés, l'un à 18 ans, l'autre 19, et sont tous les deux en situation de récidive. Ils étaient jugés en comparution immédiate ce matin. Dans la salle, Guy Verdeghem, une des victimes, qui se rendait au magasin au moment où les jeunes ont débarqué. Il est venu témoigner devant les juges ce matin.
J'étais à l'extérieur du magasin, discutais avec un ami. Un individu qui est arrivé avec une barre, je croyais que c'était une barre en bois au départ. Au dernier moment, il a levé la tête où là, on s'est aperçu qu'il était camouflé. Il a été rejoint de 2 collègues tout de suite derrière, avec des pierres à la main. Lui, il avait la barre de fer, il nous a menacé pour rentrer à l'intérieur du magasin pour pouvoir agir. Ils ont dérobé le tiroir caisse, l'autre a frappé l'encadrement de la caisse avec une barre de fer. Et quand ils ont pris la fuite, le troisième m'a visé avec un caillou et on a évité le drame. Voilà, ils sont partis, heureusement il n'y a pas eu de blessés, il y a eu plutôt du traumatisme moral au niveau des employés du magasin.
Et face à la victime et au juge, les 2 accusés n'ont pas été très bavards. C'est sans réaction qu'ils ont reçu l'annonce de leur condamnation. 24 mois d'emprisonnement chacun et révocation de la peine de sursis de 3 mois, soit 27 mois de prison ferme au total.
L'IOM adapte sa politique monétaire dans la zone franc-pacifique. Le Conseil de surveillance de l'Institut des missions d'outre-mer a pris plusieurs décisions pour répondre au contexte économique actuel dans les territoires de la région. Jean-François Baudin.
Contexte marqué par une inflation plutôt modérée, 1,8% en Nouvelle-Calédonie, 1,5% en Polynésie française depuis avril 2025. Mais la situation est contrastée. Si la Polynésie reste portée par le tourisme, la Nouvelle-Calédonie souffre, elle, d'un climat économique incertain et d'un secteur nickel toujours en difficulté. Pour soutenir la visibilité des banques et des entreprises, l'IOM a choisi de prolonger son dispositif de refinancement jusqu'au premier semestre 2026. Plusieurs lignes de refinancement seront également modifiées ou renouvelées dans les prochains mois. Autre mesure forte, la baisse de 0,25% de tous les taux directeurs à partir du 12 juin. Le taux de la facilité de dépôt passe à 2%, le taux de réescompte à 7 jours à 2,10%, le taux de facilité de prêt marginal à 2,75% et celui des prêts à 6 mois à 2,20%. L'IOM rappelle qu'il restera attentif à la situation dans les collectivités du Pacifique, en particulier en Nouvelle-Calédonie, pour garantir l'accès au crédit et préserver la stabilité financière.
Merci beaucoup Jean-François Baudin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Il est l'heure de notre question opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, selon vous, la Nouvelle-Calédonie est-elle en train de redevenir un enjeu de politique nationale ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation. Et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. 17h56, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La SFINEF au soir, Léo Fichou.
Après les destructions d'entreprises et de bâtiments publics, également lors des émeutes de l'an dernier, les travaux de déconstruction ont bien avancé. On estime que 80% des chantiers sont déjà réalisés, Jean-François.
Comment cela se passe-t-il ? Quelles sont les règles, les processus, les délais ? Ce sont quelques-unes des questions posées ce midi dans le magazine citoyen consacré à ce sujet. Rapidement, les entreprises se sont organisées et ont également fixé un cadre de la déconstruction pour respecter les normes environnementales. À chaque fois, un diagnostic amiante a été réalisé. Peu de bâtiments étaient concernés, mais malgré tout, une filière locale de gestion de ces déchets pourrait voir le jour. Patrick Bélinguez du cluster à Cotrède.
Pour ce qui est de l'amiante, la seule filière aujourd'hui possible, c'était l'export en Nouvelle-Zélande. Mais des discussions avec la province sud s'engagent et il est possible qu'il y ait dans quelques temps un casier dédié à cet effet à la CSP. Je pense quelque chose de ponctuel, parce qu'il faut savoir que l'amiante, c'est pas quelque chose de grandiose en Nouvelle-Calédonie, et vous en avez au niveau environnemental, sur les carrières et tout, il y en a partout. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que ça fait 20 ans qu'on demande d'avoir des diagnostics techniques amiantes sur tous les bâtiments en Nouvelle-Calédonie avant 2008. Ça n'a pas été fait, ça a retardé le processus de démolition parce qu'il a fallu chercher l'amiante. Et malgré tout, très peu de bâtiments brûlés ont été désamiantés parce que beaucoup de diagnostiqueurs n'ont pas trouvé d'amiante dans les bâtiments, dans les décombres, quoi.
Les chantiers de déconstruction ont été nombreux, a souligné Franck Olivier, le directeur de l'entreprise Démolition Désamiantage NC. Mais pour autant, les entreprises du secteur sont en grande difficulté, nous a-t-il dit.
Et aujourd'hui, bah, il faut alimenter toutes ces entreprises qui ont des salariés qui sont sur le point d'être licenciés. Hein. Moi, je prends la part de DNC où j'ai eu la chance pendant 3 ans d'avoir 12 salariés. Et là, je commence à diminuer tranquillement mes CDD, les arrêter. Parce qu'effectivement, on est dans une phase où, malgré le boom qu'il y a eu, avec le partage des travaux qu'il y a eu pour tout le monde, bah, il y a même des activités de démolition qui sont en train de diminuer, de s'arrêter. Donc l'intérêt, c'est de se...
Ça semble paradoxal.
Alors, c'est paradoxal et en même temps, bah, ça a permis pendant quelques mois de partager le travail, je le répète. Hein, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, avant un chantier, que j'ai, entre guillemets, sous-traité à une boîte de gros œufs parce qu'ils n'avaient pas de boulot. Et ils ont fait de la démolition parce qu'ils étaient équipés et qu'ils ont respecté les règles. Mais clairement, aujourd'hui, tout le monde se meurt.
Présent également sur le plateau de citoyens Laurent Jandot, le directeur du groupe Jandot, les bâtiments Renault ont été entièrement déconstruits et ils pourraient être réhabilités en conservant la dalle et les murs porteurs. Mais pour l'envisager, il faut une reprise de l'économie.
On aspire tous à revenir à une situation avant événement. et ça nous rassurerait de revoir nos bâtiments en bon état. Toutefois, reconstruire, il faut un marché pour ça. Et en ce qui concerne l'automobile, le marché n'est absolument pas revenu. On est toujours à moins 50, moins 60% de ce qu'on a pu connaître avant les émeutes. Donc la volonté de reconstruire, elle est là tous les jours, puisque on passe devant ces bâtiments, ils ne sont pas très agréables à voir et on aimerait bien les voir autrement. Mais il va falloir un marché pour reconstruire et peut-être, on en parlait un petit peu tout à l'heure, au-delà du marché, des assurances, puisque bon, nous savons tous aujourd'hui que la clause émeute a été retirée de la quasi-totalité des contrats. Quand vous construisez un bâtiment, c'est pour 20 ou 30 ans. J'aimerais qu'on me rassure sur les émeutes dans les années à venir. Mmh. Aujourd'hui, c'est une chose, demain, c'en est une autre. Donc, la volonté est là, oui. Je pense qu'on a tous envie de reconstruire, mais pour ça, il nous faut un marché et de la sécurité.
Des extraits du magazine Citoyen spécial Déconstruction, une émission qui est à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc.
Le retour ce mardi après un arrêt brutal en 2024 du concours annuel valorisant les meilleures carcasses de gros bovins issus d'élevages calédoniens. Un concours organisé dans le cadre de la fête des pères par l'OSEF et l'UPRA Bovine. Mathieu Autogali, directeur adjoint à la section viande de l'OSEF, s'est dit heureux de relancer ce concours qui permet de mettre en avant le travail des éleveurs.
C'est ça, un semblant de retour anormal. Effectivement, l'année 2024, elle ne nous a pas permis d'organiser les concours pour les raisons qu'on connaît tous. Donc là, ça fait du bien de retrouver un petit peu toute la filière, on va dire, de l'amont à l'aval, avec tous les partenaires. C'est l'avantage de la Calédonie, j'ai envie de dire. C'est un petit pays, tout le monde se connaît. Ça reste des circuits relativement courts, quoi qu'on veuille et quoi qu'on en dise. Donc c'est amical presque les relations, j'ai envie de dire. Les éleveurs connaissent les bouchers, on se connaît tous, donc c'est bien. C'est sûr que par rapport aux années précédentes, les enchères sont moins montées, mais effectivement, ça traduit une baisse de pouvoir d'achat de la population et ça traduit aussi la situation des commerces aujourd'hui, hein, qui ont des pertes de marché, donc ils peuvent plus se permettre d'acheter des carcasses très chères.
Mais ça ne veut pas dire que la carcasse, c'est que la viande est moins bonne.
Certainement pas, la qualité est toujours au rendez-vous, c'est juste le pouvoir d'achat qui est moins élevé, on va dire.
Et le meilleur éleveur cette année, ou du moins celui qui a produit la meilleure viande, c'est Ismaël Miloud. Il a présenté un bramoussin de 35 mois, 754 kg pour une carcasse de 498,5 kg. Éleveur à Bouraille, en famille, il était forcément très heureux de repartir avec le premier prix.
Ben, j'ai fait plusieurs concours, je suis toujours arrivé deuxième, troisième, quatrième, donc là c'est la première fois que je gagne. Donc oui, c'est une satisfaction, c'est de voir nos bêtes grossir, grandir, puis après qu'elles arrivent premier au concours, c'est bien. Bon, je suis éleveur du week-end, je travaille sur Nouméa et c'est une passion le week-end, du coup je fais de l'élevage, c'est mon père qui s'en occupe la semaine et moi je m'en occupe le week-end. Bon, en fait, j'achète les bouvillons à mon oncle qui est éleveur lui à temps plein et derrière mon père s'en occupe la semaine, moi je m'en occupe le week-end, c'est plus une passion depuis plusieurs années, quoi.
Et après l'annonce des résultats, de la remise des prix aux éleveurs, place aux bouchers, ils observent les carcasses, questionnent les éleveurs et réfléchissent jusqu'à quel prix ils vont pouvoir enchérir. Et au petit jeu de ces enchères, c'est Hans Biré, chef de la boucherie de Géant-Sainte-Marie, qui a remporté le gros lot. 400 francs le kilo pour cette bête de 498,5 kilos.
On fait ça gentiment avec beaucoup de, voilà, c'est, vous voyez, c'est beaucoup de bienveillance, pas de crieur. Voilà, c'est un bon moment à passer et c'est important pour nous, pour tout le monde, je pense. Elle a été bien conforme, elle a été bien persillée, avec des belles formes, avec un bel avant, donc des belles épaules, avec du beau paleron à griller, je pense. Ouais, super, super bête.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cette bête?
Tout, de la grisiane, du poteau-feu, on a aussi avec des araignées, de la hampe, il y a pour tous les goûts, toute nature, il y a aussi des picanias, il y a aussi de la brisquette, enfin, on peut tout faire. On fait tout maintenant en Calédonie, on est des bouchers confirmés, on valorise nos carcasses à fond.
Les meilleures viandes du territoire seront vendues dès la fin de semaine en boucherie, et vous l'aurez compris, le premier prix sera du côté de Géant-Sainte-Marie. Demain matin, notre invité à 7h30 sera Mario Lopez, président de la Fédération de la pêche hauturière et élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Nous l'interrogerons sur le sommet des Nations Unies sur les océans qui s'est ouvert à Nice, mais aussi sur le moratoire de 50 ans voté par le Congrès sur l'exploration et l'exploitation des fonds marins. Dans le reste de l'actualité, une voiture disponible en un clic, c'est désormais possible en Nouvelle-Calédonie. Vous avez peut-être aperçu des véhicules électriques estampillés d'un logo orange rouler un peu partout dans Nouméa ces derniers temps.
Il s'agit tout simplement de voitures proposées en libre-service via une application baptisée Papaye Charlotte.
Voilà un mois que le service a été lancé sur le territoire et il a déjà trouvé ses adeptes. Plus de 100 clients ont testé le service en l'espace de 15 jours. Le principe est simple, tout passe par l'application. Vous vous inscrivez avec votre permis de conduire, vous réservez un véhicule qui se trouve à proximité de votre emplacement et vous déverrouillez la voiture, le tout avec votre smartphone. Pour le moment, une vingtaine de véhicules, tous 100% électriques, sont disponibles en libre-service. Mais le groupe SLK Mobility, qui est derrière le concept, envisage d'étendre son parc automobile en fonction de la demande. Pour une simple course ou pour un trajet jusqu'à l'aéroport, les usages sont nombreux, explique Pierre Kraft, gérant du groupe SLK Mobility.
Le profil des gens sont des gens qui soit ne sont pas propriétaires de véhicules, soit à l'instant n'ont pas de véhicule, hein, puisqu'il faut un besoin de mobilité. Et on va rentrer dans une typologie assez jeune. On a des gens qui l'utilisent régulièrement. Ils ont compris l'intérêt de la solution. Ils utilisent le véhicule quand ils en ont besoin. Alors, on voit des petites courses à 500 francs, on voit des courses à 1000 francs. Et puis, certains l'utilisent un petit peu plus. Donc dans ce cas-là, effectivement, le prix de la course augmente. Mais pour vous donner le cas d'usage, j'étais à Nouméa, au port, donc au centre-ville. J'ai pris un véhicule. Je suis allé chez mon coiffeur qui est à Ducos. Je me suis arrêté à Ducos, donc j'ai verrouillé effectivement provisoirement la voiture pendant que j'étais chez le coiffeur. Je suis rentré à Nouméa. Je suis parti près d'une heure. Tout ça m'est revenu à 1400 francs.
Et ce concept, déjà répandu en métropole, répond à un changement de mode de consommation des usagers de la route. Si avant, posséder son propre véhicule était une étape logique dans la vie, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La mode est à la mobilité partagée, pour des raisons écologiques, mais aussi économiques, souligne Pierre Kraft.
Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs perturbations dans le monde de la mobilité. Alors d'abord, la Calédonie a vécu différentes crises, dont la dernière qui est très très forte. Aujourd'hui, acheter un véhicule, et on le voit malheureusement, le marché de l'automobile est effroyablement bas, compte tenu du fait que les gens n'ont plus ou les moyens, ou plus envie, en tout cas des doutes sur l'acquisition d'un véhicule. Le deuxième phénomène qui intervient, c'est que aujourd'hui, les gens ne savent plus trop s'il faut acheter un véhicule thermique ou un véhicule électrique, hein, quelle technologie pour demain. Et donc nous, on répond pleinement à cette problématique, c'est-à-dire que aujourd'hui pour se déplacer, il n'y a pas besoin d'être propriétaire d'un véhicule. Vous pouvez juste le demander à l'usage et utiliser le véhicule que vous voulez. Alors, comme on a un choix de véhicule, vous pouvez choisir la mobilité en fonction de votre besoin.
Et Papaye se destine donc aux particuliers, mais pas uniquement. Les entreprises peuvent également bénéficier de ces locations en remplacement, par exemple de leur véhicule de service. Toutes les informations et la marche à suivre sont à retrouver sur le site internet papaye.nc.
Les 700 jeunes chrétiens qui participent au rassemblement de Ténée ont vécu leur première journée sur le site de l'hippodrome de Bourailles. Elle a débuté par des enseignements qui déclinent le thème général. On le rappelle, l'espérance ne déçoit pas. Ce matin, par exemple, le diacre Jean-Bernard Robert Tragère a pris la parole sur le thème « Soyons signes d'espérance ».
C'est sur le thème d'être dans l'espérance, de vivre l'espérance. L'espérance qui ne déçoit pas. Voilà.
Et comment est-ce que vous l'avez décliné ?
J'ai d'abord leur expliqué ce que c'est que le mot espérance. Qu'est-ce que c'est qu'être un signe? Voilà, c'est surtout ça. Et comment, dans le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie, on doit être dans l'espérance et être signe d'espérance pour pas tomber dans la désespérance. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils comprennent pas, le Saint-Esprit fera le nécessaire.
Cet après-midi, les jeunes ont été répartis dans des ateliers. Ils avaient le choix entre la préparation de la veillée et de la messe du lendemain, l'étude biblique 2.0 ou les œuvres de miséricorde.
On avait différentes activités qui sont basées sur le même principe, comprendre la parole, surtout le verset qui nous a été dit ce matin. On travaille encore dessus, de différentes façons. Mais là, aujourd'hui, on a développé de nouvelles façons de comprendre la parole. Et c'est avec cette façon-là qu'on essaie d'avancer petit à petit.
1, 2, 3, et le poids vers le haut. C'est bon ? On reprend tout jusqu'au poids vers le haut, hein ? Okay. Sans s'arrêter.
C'est l'activité danse qui fait partie de l'atelier biblique 2.0. On apprend une danse aux jeunes sur le sous-thème du jour et sur le texte biblique qu'ils ont étudié en lecture divina.
On a fait lecture divine, le sport, de la danse et là on passe au club de cohésion. Partage. Moi j'ai aimé le sport et la danse parce que c'est un nouveau activité voilà qui sont mises en place et puis c'est bien parce qu'on a pu découvrir en quoi l'espérance peut apporter envers la communauté ou personnelle.
De l'espérance, de la foi et de Dieu.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Demain, les jeunes travailleront sur le thème « La parole de Dieu, parole d'espérance » présenté par le diacre Vaimoua. 18h09, on marque une seconde pause dans ce journal avant de voir l'actualité dans la région et de parler sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léo Fichon.
L'actualité dans la région et le sort des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée inquiètent l'UNICEF et le Conseil national des églises. Il faut dire que l'état des lieux de la situation de l'enfance est alarmant. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La représentante de l'UNICEF en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le docteur Vira Mendonca, a indiqué que dans un pays où le nombre des habitants est aujourd'hui estimé à plus de 12 millions, 43% de la population a moins de 18 ans. Elle a ajouté que la moitié des enfants souffrent de malnutrition, 85% sont victimes de violences au foyer, 40% des violences sexuelles impliquent des enfants, la couverture vaccinale est inférieure à 50%, et l'enregistrement des naissances n'est que de 13%. Ces indicateurs sont inacceptables et nous devons agir de toute urgence, a-t-elle dit, sinon l'actuelle génération sera perdue. À son initiative, le Conseil national des églises et l'UNICEF ont donc signé un protocole d'accord en vue de promouvoir la parentalité positive, d'améliorer la nutrition infantile, d'accroître la vaccination des enfants et l'enregistrement des naissances. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport avec du tennis de table dans la région. Des Calédoniens sont depuis ce week-end en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Ils participent au championnat d'Océanie. Maëlie Giré, Jérémy D, Jérôme Morisseau et Olivier Clouet ont réussi à sortir des poules, mais malheureusement, ils se sont tous inclinés cet après-midi en huitième de finale. On notera tout de même qu'en parallèle de cette compétition, à l'échelle de l'Océanie, est organisée la Coupe du Pacifique. Et là, les Calédoniens ont brillé. Maëlie Giré s'est imposée chez les dames, Jérémy D chez les hommes, en dominant Jérôme Morisseau en finale. Je vous propose d'écouter les deux vainqueurs.
Franchement, c'était top. C'est cool de jouer les filles du Pacifique. C'est la première fois que je joue les filles du Pacifique. Du coup, je découvre les équipes, Tahiti et tout ça. Intense et contente. C'était cool.
Ça fait du bien aussi de jouer contre d'autres joueurs que ceux qu'on a en Calédonie. Et il y a eu de belles batailles. En l'occurrence, la demi-finale avec le Tahitien Are Inouï et la finale contre mon meilleur adversaire, Jérôme Morisseau. Encore de beaux matchs, quoi. Donc plutôt content de mes matchs en général et super content aussi de retrouver les joueurs du Pacifique sur cette compétition.
Et dans la compétition par équipe hommes, les Calédoniens sont montés sur la plus haute marche du podium, juste devant Tahiti et Fidji. Et puis du football, la sélection des moins de 20 ans continue sa préparation à la Coupe du Monde. Les joueurs de Pierrois Joka sont à Yengen cette semaine et disputent deux matchs amicaux. Contre Yengen d'abord aujourd'hui et puis contre Point-Dimier demain. Les U20 disputeront le mondial du 27 septembre au 19 octobre. Ce sera au Chili. Ils seront dans la poule de la France, des États-Unis et de l'Afrique du Sud. 18h passées de 13 minutes après le sport, on parle météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, les nuages s'épaissiront et des averses se déclencheront, en particulier vers Maré et Nifou. Sur le reste du territoire, les nuages élevés prédomineront. Le vent restera le plus souvent faible et de secteur variable. Il atteindra toutefois 10 nœuds de secteur est sur la pointe nord. Les températures évolueront entre 19 et 23 degrés en général et descendront jusqu'à 16 degrés. Ce sera sur l'ouest. Demain matin, les Loyautés garderont un ciel souvent couvert avec des pluies, parfois marquées vers Lifou et Maré. Les nuages seront également nombreux sur la façade est, tandis que de belles éclaircies se développeront sur l'ouest. Le vent, quant à lui, sera variable et faible.